Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Louis-Marie Blanchard a promené son regard, des Alpes aux vallées reculées des Andes et de l'Himalaya. Il a publié ses reportages dans Géo, Terre Sauvage, Grand Reportage, Trek Magazine et Le Monde. Amateur de récits de voyage et d'exploration, collectionneur averti, naturaliste passionné, Louis-Marie est plein de ressources. Il a fait partie de la vague des 68 arts sur les chemins de Katmandou. Rencontre avec ce grand voyageur.
En fait, je fais partie de cette génération des 68 arts, moi. Donc j'ai 69 ans aujourd'hui, mais donc dans les années 70, j'ai commencé à voyager en fait sur un déclic qui m'a été donné au lycée par le père d'un copain qui était géologue et qui est allé faire des missions de reconnaissance de géologie en Afghanistan. À l'époque, l'Afghanistan est un pays tout à fait paisible. Et un jour, ce type est venu, au retour d'une mission, nous faire un diaporama sur l'Afghanistan. Et ça a été un choc pour moi. Ces images sur l'Afghanistan, ça a été un choc. Il faut dire que l'Afghanistan de l'époque, c'est vraiment encore une société orientale, mais médiévale, mais vraiment médiévale. Et je me suis dit, des pays comme ça existent. Ça m'a fait immédiatement envie, je ne sais pas pourquoi, une espèce de vouloir retourner dans le passé comme ça. Et après, cette quête des sociétés traditionnelles qui vivent un peu hors du champ moderne, enfin de moins en moins maintenant, mais quand j'ai commencé, il y en avait encore beaucoup. Et ça ne m'a jamais quitté. Ce côté un peu traditionnel avec des vrais paysans, des vrais artisans, des vrais commerçants à l'ancienne, des structures familiales différentes de chez nous, où dans une même famille on va trouver les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Pas des sociétés basées sur l'individu comme nous, mais basées sur un esprit de famille et de communauté. Et puis des sociétés qui sont parfaitement adaptées à leur environnement. Que ce soit des sociétés de paysans montagnards ou des sociétés nomades, de nomades éleveurs. J'ai toujours eu cette quête-là, je ne saurais pas dire pourquoi. Ça correspond à un besoin profond chez moi.
Mais c'est marrant parce que là, on est dans les années 70 et aujourd'hui, on pourrait se poser les mêmes questions. Moi, je suis d'une génération différente de la tienne, j'ai la trentaine. Et je vois aussi cet individualisme. Moi, j'avais l'impression qu'il y a 40 ans, ce n'était pas comme ça.
C'était déjà le début chez nous. D'ailleurs, 68 a été un combat assez farouche pour la liberté de l'individu, si bien l'homme et surtout la femme. Hein. Mais justement, parallèlement à ça, il y a des gens qui comme moi, dans les voyageurs, on en a souvent discuté, qui cherchaient d'autres modèles. Qu'on pouvait pas appliquer chez nous, évidemment. J'ai pas pu l'appliquer chez moi. Je vis comme tout le monde. Mais j'avais besoin de me ressourcer quelques mois par an dans ces endroits-là. Et puis j'ai commencé comme ça à faire du reportage, modestement. Bizarrement, j'ai commencé avec un reportage, d'ailleurs, non pas à l'étranger, bien que je voyageais à l'étranger. J'ai commencé avec un reportage de fond sur quelques villages savoyards. Mais vraiment, ce qui restait de plus traditionnel comme village savoyard en Haute-Maurienne. Ça m'a pris 4 ans. Et puis après, j'ai commencé un travail de même nature sur la Bretagne maritime, notamment avec les pêcheurs et tout ça. Et puis en même temps, comme je voyageais, j'ai quitté l'Orient, parce qu'on avait fait, ma femme et moi, un premier voyage où on avait fait les fameux chemins de Katmandou avec le premier guide du routard en main, le tout premier guide du routard.
On est quand là ?
On est dans les années 70, hein. Et il y avait cette fameuse revue Partir aussi qui nous faisait tous rêver, tous les voyageurs. Il y avait des forums, c'était l'époque aussi de la guilde européenne du raid, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis donc j'ai laissé tomber assez vite l'Asie, je ne saurais pas trop dire pourquoi, pour aller au Pérou. Et pendant 10 ans j'ai travaillé sur la même communauté d'Indiens au Pérou. Et là j'ai sorti mon premier grand reportage que j'ai eu la chance de vendre à toutes les grandes revues de voyage en Europe.
Mais comment est-ce que tu es devenu reporter? C'est quelque chose que tu voulais faire dès l'enfance ou est-ce qu'on le devient à force de voyager? Quel est l'itinéraire de ton parcours professionnel?
En fait, j'avais un père qui était photographe, qui aimait beaucoup la photographie. Et dès l'âge de 12-13 ans, je connaissais les labos photo, le tirage photo en noir et blanc, tout ça. Et puis après est apparue la diapo qui est devenue accessible. Hein, parce qu'avant, il y avait le problème aussi. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il y a 40 ans, c'était cher la photo. Ça revenait cher. Hein. Les diapos notamment, ça coûtait cher. Je me suis payé ce fameux SRT 101, puis derrière j'ai acheté un zoom pour un téléobjectif, quoi. Et j'ai commencé du travail de reportage au Pérou. Et j'ai eu cette chance de gagner plusieurs concours dans des festivals et tout. Et du coup, j'ai été publié donc, dans ces revues, comme je le disais. J'ai été publié dans Géo, dans World Magazine, dans Erone en Italie, etc., etc. Avec un reportage que personne n'avait à l'époque, sur des Indiens qui montent sur un glacier avec des crucifix et qui redescendent des blocs de glace qui servent d'eau bénite à Cusco. Mais c'est une fête invraisemblable. Il y a 30 000 Indiens qui sont là. Personne n'avait fait ce truc. Et vraiment, ça m'a mis le pied à l'étrier.
Et à cette époque-là, tu croisais déjà beaucoup de monde avec un appareil photo dans l'envie de faire du reportage sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, partout, tout le monde a un appareil et tout le monde essaie de ramener des images pour raconter une histoire.
Non, à l'époque, il y avait beaucoup de routards, hein, beaucoup de Français, un petit peu d'Américains, quelques Anglais, quelques Italiens, Israéliens, quelques Espagnols. Les Français étaient en grande majorité, un peu d'Allemands aussi. Beaucoup faisaient des photos pour eux, quoi, avec des petits appareils. Il y avait peu de gens à l'époque, on n'était pas très concurrencés. Hein. Quand on arrivait dans un magazine, dans une rédaction de magazine, on avait assez peu de concurrence. Ça allait. C'était très différent de ce qui se passe maintenant.
Et c'est donc le voyage qui t'a amené vers le reportage?
Oui, c'est le voyage qui m'a amené au reportage et pas l'inverse. J'avais absolument aucune formation dans le domaine, pas plus en écriture qu'en photographie. C'est mon père qui m'avait formé à la photo. Après, j'ai commencé à prendre une caméra. Je me suis formé absolument tout seul. Je me suis mis tard à la caméra et j'ai attendu l'arrivée des caméras numériques. J'ai travaillé un petit peu pour France 3 avec ACL et Nagra, mais je trouvais ça trop lourd, trop pénible et tout. Et finalement, je me suis vraiment mis le pied à l'étrier du cinéma avec les premières caméras numériques.
Et donc là, dans l'idée de faire du documentaire et toujours voilà. Témoigner d'expériences de vie avec les peuples que tu rencontrais lors de tes différentes pérégrinations.
Voilà. En fait, j'aurais peut-être pas quitté le Pérou si tôt, parce qu'en général, quand je suis sur un sujet, j'y m'accroche un peu. Donc après 10 années où j'allais chaque année au Pérou, en général 2 mois, et ce travail sur la communauté des Queros, là, dans la cordillère de Vilcanota, j'avais vraiment un très bon sujet, mais il y a eu l'arrivée du Sentier Lumineux, qui était un groupement terroriste qui a commencé à envahir les jungles du Piémont des Andes, puis petit à petit remontait dans les vallées des Andes, et ça devenait vraiment très dangereux pour les Occidentaux, qui pouvaient être raptés pour demande de rançon, etc. Et bah, là, on est dans les années 85, par là. Et là, j'ai vu qu'il fallait plus que j'aille au Pérou. Et du Pérou, je suis passé au Tibet. Parce qu'en fait, il y a une très grande ressemblance entre les paysans montagnards des Andes et les paysans montagnards du Tibet.
Et là, le Tibet, tu pouvais y aller en 85, le pays était ouvert.
Le pays n'était pas ouvert au Tibet, c'était un vrai problème. Mais là, c'était assez facile de contourner l'armée, la police et l'administration. Et il n'y avait pas de risque de se faire couper la tête. Hein. Tandis qu'avec le Sentier Lumineux, c'était vraiment chaud, quoi. C'était dangereux. Moi, je n'avais pas vraiment l'âme d'un reporter de guerre. C'était pas mon truc, quoi. Au Tibet, en passant la nuit, en passant par les montagnes, j'ai payé plusieurs fois d'assez lourdes amendes à la police, souvent en cash, d'ailleurs, parce que c'était où tu payais en cash, où ils t'envoyaient ton passeport à Pékin. C'est-à-dire qu'ils se mettaient l'argent dans la poche et ils te laissaient partir. En te redonnant ton passeport. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Le pire, c'est que j'ai payé quand même $800. $800 US pour récupérer mon passeport. Mais chaque fois, j'arrivais à m'en sortir. Et là, j'ai sorti des bons reportages qui ont été pris par toutes les revues. Et un bon film qui s'appelle Tibet, les cavaliers du vent, qui passe encore, que j'ai vendu à la télévision, dans plusieurs chaînes. J'ai aussi vendu à l'étranger. Et ça aussi, ça a été mon deuxième grand pied à l'étrier. J'étais vraiment un des premiers, je ne dis pas ça par forfanterie, un des premiers à aller travailler, notamment sur les nomades du Tibet oriental. fallait passer à travers les mailles du filet parce que c'était pas officiellement ouvert. Et ça m'a permis de faire des reportages que personne n'avait.
Mais en fait, ta vie, tu l'as complètement construite autour d'une passion qui était celle du voyage, quoi. Tu as passé ton temps à vivre des expériences que tu avais rêvé de vivre.
Bah, j'avais quand même une vie classique puisque je suis marié, j'avais des enfants qui étaient au collège, etc., à l'école, au collège. Ma femme, c'est vrai, se plaignait assez souvent quand les enfants commençaient à grandir du fait que j'étais trop souvent absent. Parce que les moments où j'étais pas en voyage, j'étais beaucoup en festival, en tournée de conférences, etc. Et c'est vrai que j'ai été relativement absent pendant des années où il aurait sans doute fallu que je sois plus présent. Et j'ai commencé, ma fille et moi, on a commencé à sortir des bouquins sur l'histoire de l'exploration. Et on continue dans cette veine-là. On est devenu vraiment, je pense, d'assez bons spécialistes sur le sujet. Et donc, des maisons d'édition nous font confiance, notamment des éditions Paulsen, qui m'ont vraiment, encore une fois, c'était un coup de chance de les trouver. Ils sont spécialisés sur l'exploration. Et donc, ma fille et moi, on a sorti un bouquin sur Marco Polo, un gros livre là-dessus, un bouquin sur les explorateurs botanistes, dernièrement un bouquin sur l'exploration de l'Amérique du Nord. Et puis là, on est en train d'écrire un bouquin sur l'exploration du Tibet.
Donc là, tu as tout un travail de recherche à faire ici en France.
Oui, c'est un travail qui au fur et à mesure que je vieillis maintenant, donc j'approche de 69 ans, j'ai toujours le même goût pour le voyage, mais je crois que j'ai encore plus le goût pour les livres et pour les récits d'exploration anciens. Parce que c'est vrai que les gens qui ont parcouru le monde entre 1850 et 1914... qui a été vraiment la Première Guerre mondiale a été un bouleversement dans le monde, hein, a changé beaucoup la donne dans le monde. Mais entre 1850 et 1914, il y a eu une période dorée de l'exploration où les types qui parcouraient à cette époque-là l'Amérique du Sud, même l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, ont vu des trucs mais invraisemblables, quoi. Qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait encore une multitude de sociétés qui vivaient à l'âge de pierre. Et quand ces types-là racontent ça, ça décoiffe. C'est vrai qu'à cette époque-là, dans chaque vallée montagnarde, il y avait une petite société fermée. Dans chaque forêt un peu isolée, il y avait une petite société fermée. C'était relativement facile d'aller chercher des images extrêmement exotiques et de les publier. Aujourd'hui, quand vous allez dans une rédaction, on vous dit « faut trouver un angle parce que ça a déjà été fait, il nous faut un autre angle ». Parce que ça, on l'a déjà vu, on le connaît. Il y a peu d'endroits aujourd'hui, il y en a même pour dire plus d'endroits où personne n'est allé avant vous. Ça n'existe plus. Donc maintenant, il y a une autre façon de travailler qui est de trouver un angle nouveau pour parler du même sujet, d'un sujet dont on a déjà parlé 10 fois. Par exemple, le Tibet, il y a déjà eu des milliers de reportages sur le Tibet. Donc si on veut faire un reportage sur le Tibet, il va falloir trouver un angle très particulier, susceptible d'intéresser le public. Donc ce n'est plus du tout la même façon de travailler que je dirais, la vieille école qu'on a connue.
Le Tibet, parce que c'est vrai que le Tibet ou ailleurs, toi tu as commencé à voyager en 70, on est en 2017, donc 40 ans, 47 ans. Tu as vu aussi cette évolution du monde. Tu me parles de la Première Guerre mondiale où là il y a vraiment eu un changement radical, mais en 40 ans de voyage, tu es aussi le témoin de cette évolution du monde, des sociétés et des cultures.
Oui, mais disons que après les années 70, il y a eu la deuxième révolution du voyage. La première révolution du voyage, ça a été à partir du milieu du 19e siècle, où là on voit très clairement qu'on passe de voyageurs qui mettent 6 mois à aller à l'autre bout du monde avec un bateau, tout d'un coup, avec le chemin de fer, par exemple, en Asie, ils vont mettre que 3 semaines, comme Bonvalo dans les années 1880. Bonvalo, un grand explorateur français, va mettre que 3 semaines pour aller de Paris à Tashkent, au fin fond de l'Asie centrale, parce que les Russes ont fait le chemin de fer. Et tout va être comme ça. Et puis si on remonte très peu de temps après, on va s'apercevoir qu'un type comme Simpson, un grand alpiniste, va mettre que 3 jours pour aller de Londres à Bombay, en avion. Donc il va y avoir vraiment... On va passer en 50 ans, on va passer de 6 mois de voyage pour aller à l'autre bout du monde à 3 jours de voyage. Il n'y a pas eu l'équivalent depuis. Parce qu'aujourd'hui, on va passer de 3 jours à 15 heures. Mais c'est rien la différence. Avant, on est passé de 6 mois à 3 jours, en changeant 2 fois d'avion. que les avions étaient incapables de faire ces distances-là d'une seule traite.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais aujourd'hui, il y a plus de voyageurs qu'avant encore, j'ai l'impression. Les billets d'avion, comme tu dis, sont moins chers. Il n'y a jamais eu autant de monde en l'air. Il n'y a jamais eu autant de monde de déplacement de population partout sur cette planète.
Alors, bon, moi je dirais, faut faire attention quand on dit qu'il y a du monde partout. Moi je me suis aperçu récemment, depuis 5 ans, je travaille sur le Maroc. Au début, quand un copain m'a dit « Viens au Maroc avec moi, tu vas voir, tu vas trouver au Maroc des choses que tu vas chercher très loin en Asie centrale », j'y croyais pas. Et bien finalement, je me suis aperçu qu'au Maroc, il y avait 7 endroits sur 10 où jamais un touriste n'a mis les pieds. Parce qu'en fait, les touristes, ils sont assez grégaires. J'ai rien contre le tourisme, au contraire. Enfin, je trouve que bien souvent, ça permet aux gens de comprendre comment vivent quand même les autres sociétés. Ça crée des liens, ça empêche le racisme, ça empêche... Je trouve que ça a du bon, le tourisme. Ça crée des liens entre tous les gens dans le monde. Mais ce qu'on peut reprocher au tourisme grand public, c'est qu'il est très grégaire. Les gens vont tous au même endroit. Par exemple, au Maroc, ils vont tous aller à Fès, à Marrakech, à Essaouira et tout. Dès l'instant que vous en allez dans des endroits où on ne peut plus aller en voiture, où il faut marcher à pied, où il faut prendre un mulet pour porter les bagages, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et ça, ce que je dis là pour le Maroc, c'est vrai, encore plus vrai pour l'Asie, pour l'Amérique du Nord, pour l'Amérique du Sud. Dès l'instant que vous allez... dans les endroits où on ne peut plus aller en voiture, il n'y a plus personne. Et croyez-moi, des endroits où on ne peut pas aller en voiture dans le monde, il y en a encore énormément. Vous prenez n'importe quelle carte de n'importe quel pays, vous regardez l'endroit où il n'y a pas de route, et vous allez là, vous serez sûr de faire quelque chose de bien.
Et là, vivent encore des hommes.
Et là, il y a toujours des hommes partout. Alors évidemment, pas avec les mêmes densités. Mais il y a des hommes partout, au fin fond de la Patagonie, il y a des gens, au fin fond de l'Amérique du Sud, au fin fond de l'Asie, du Pamir, il y a des gens. Il faut aller les chercher. Et ça nécessite souvent 3-4 jours de marche. Si on prend les gens qui n'ont pas trop de temps de voyager, voilà ce que je leur conseille. Si je peux me permettre de donner des conseils, vu mon grand âge, c'est pas vouloir faire le tour d'un pays comme ça en 3 semaines. Les gens, souvent, ils ont que 3 semaines. Bon, en 3 semaines, vous prenez un avion, ça vous prend déjà pratiquement 2 jours. Après, vous reprenez une bagnole, ça vous prend encore 2 jours, 3 jours. Vous posez dans l'endroit où on ne peut plus aller en voiture et vous y restez tout le restant du séjour, c'est-à-dire 15 jours. Et là, vous creusez l'affaire et vous gardez la dernière semaine pour revenir, ou les 5 derniers jours pour revenir. Là, vous ferez un vrai voyage. Vous aurez vu quelque chose. Vous n'aurez pas vu que des restaurants, des hôtels et des transits d'aéroports.
Il y en aura créé des vrais liens avec les populations locales aussi. C'est souvent cette notion du temps qu'on n'a plus, où on veut en un minimum de temps, voire un maximum de choses.
Voilà, je vous donne un exemple. Vous allez aller en Mongolie, vous prenez un vol pour Oulan-Bator. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la Mongolie. Ben, c'est un exemple typique où c'est facile. Vous prenez un avion, vous allez à Oulan-Bator. Après, vous prenez un petit bus 4x4. Vous allez dans la steppe, n'importe où. Ou dans la forêt au nord, n'importe où. Vous vous faites poser là. Dans les 3 heures qui vont suivre, vous allez tomber sur une yourte d'éleveurs. Ils vont vous accueillir. Vous allez pouvoir rester avec eux. Ça va vous coûter 20 euros par jour. Vous allez repartir au bout de 15 jours, vous n'aurez fait la connaissance que 1, 2, 3 familles, mais vous aurez vraiment vu quelque chose et vous serez content, beaucoup plus que de faire la tour de la Mongolie et de vous taper le cul dans un camion pendant 3 semaines et revenir seulement avec le mal au rein et la frustration d'avoir vu beaucoup de choses mais rien.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voyager pour moi, c'est le frisson, je l'ai déjà quand je prépare mon sac. après 40 ans de voyage, préparer mon sac, ça me prend tout au plus 2 heures sans absolument rien oublier pour partir 6 mois. Quand, au moment où je prépare mon sac et tout ce dont je vais avoir besoin pendant 6 mois, ça tient dans un sac à dos, déjà j'ai un frisson dans le dos. On quitte plein de trucs dont en fait on n'a pas vraiment besoin et on concentre tout dans un petit sac et on part. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. La plupart du temps, je connais mon lieu de destination à peu près. J'ai beaucoup étudié de livres en tout genre, surtout des récits anciens. Et puis après, ben, je vais à la pêche. Je ne sais pas vraiment où je vais. J'essaie de trouver un endroit qui va être bien. Et c'est vrai que ça donne un gros frisson. Puis le deuxième truc, en dehors du frisson, c'est le fait, la leçon de vie qu'on prend, malgré tout, et je ne dis pas ça à la légère, de voir des gens vivre heureux. Maintenant, c'est plus dur parce que le climat est en train de changer. Là, quand je vois Trump qui dit qu'il n'y a pas de problème climatique, ça me rend malade. Dans toutes les sociétés où je vais, il y a des gros problèmes climatiques. Et les gens disent on va bientôt plus pouvoir vivre comme avant. Parce qu'il y a trop de changements, notamment des problèmes de sécheresse dans tous les endroits où je vais. Ou trop de pluie. Et ces gens-là, ils vivaient heureux, souvent avec un petit bout de maison de 30 mètres carrés ou une tente de 20 mètres carrés. Tout ce qu'ils ont, ça tenait sur 3 ânes ou un chameau. Ils arrivaient à vivre heureux en famille. Donc c'est une grande leçon de vie. Nous, on est cousus de publicité pour acheter la dernière BMW, le dernier machin, le dernier frigo, le dernier de je sais pas quoi, la dernière montre, etc. Et il nous manque toujours un objet, il nous manque toujours quelque chose, ou la dernière génération, la dernière génération de téléphone, etc. Ces gens-là, ils ont rien et ils donnent l'impression d'être tout à fait heureux, sauf que maintenant, ils ont quelque chose qui leur est arrivé dessus, qui ne domine pas du tout, c'est les changements climatiques. Là, je reviens de 4 ans de travail au Djebel Saro, tous les nomades vont arrêter leur travail parce qu'ils ne peuvent plus nourrir leurs troupeaux. Avec les herbages, c'est trop sec. Donc ça, c'est les dérèglements climatiques dus en grande partie à l'homme. Le dérèglement était déjà là. Il est inéluctable parce qu'on s'éloigne de la dernière glaciation et qu'il y a moins d'eau sur la planète. Mais nous, on l'accélère trop vite pour que les gens aient le temps de s'adapter. Et ça, si on ne fait rien là-dessus, on va avoir vraiment des catastrophes planétaires.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'effet inverse où tu as maintenant des gens ici en France et en Europe qui se dirigent vers ce qu'on appelle la sobriété, la simplicité, la décroissance, qui ont conscience que finalement le bonheur n'est pas matériel, que ce n'est pas en suivant toutes les publicités qui nous entourent qu'on va réussir à trouver ce bonheur intérieur et qu'on essaie nous aussi de se vider, de se libérer et de se retrouver avec ce petit sac finalement et de se rendre compte que le bonheur, il n'y a pas besoin d'avoir tout cet apparat qui peuple nos maisons et nos habitats.
Je ne crois pas beaucoup à la... Malheureusement, hein, j'ai lu beaucoup de choses, hein, comme tout le monde, avec Rabi, tout ça, des gens qui sont passionnants et qui prêchent, qui ont un très très bon discours, hein, vraiment. Mais malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, je crois, après 40 ans de voyage, je pense que l'homme ne change que quand il est obligé de changer. Je ne crois pas que la majorité des gens changeront leur mode de vie. Il suffit de voir les Américains. La plupart des gens changeront pas leur mode de vie tant qu'ils ne seront pas obligés de changer de vie. Mais je crois que les dérèglements climatiques vont être tels qu'on va être obligé de changer de modèle économique et de changer de mode de vie.
Donc toi, tu penses que c'est vraiment quand on est face au mur que le changement se met en place ?
L'homme s'adapte obligatoirement à son environnement, même s'il voudrait ne pas y être soumis. Et c'est la nature qui va l'obliger à changer. De lui-même, je ne pense pas qu'il changera. Et en plus, je crois que beaucoup de choses le dépassent. J'entendais il y a 3 jours à France Culture une émission où il était dit qu'en Allemagne, où ils ont préservé des zones entières de nature, ils s'aperçoivent que dans ces zones de nature protégées, 75% des insectes ont disparu, malgré que la zone soit entièrement protégée. Parce que les zones aux alentours sont polluées et que du coup, il n'y a plus de couloirs écologiques et que même les zones protégées deviennent des déserts sur le plan de la biodiversité. Donc, ce n'est pas en protégeant 3 petits bouts de planète en Amazonie ou ailleurs ou dans l'Arctique qu'on va se sauver. C'est une politique globale. Et si on ne comprend pas ça, l'homme va devoir faire des changements, mais drastiques dans son mode de vie.
Dans les peuples que tu as rencontrés, est-ce qu'il y en a qui ont conscience de ces changements ? Ou est-ce que tout le monde veut absolument vivre comme nous, comme des Occidentaux, y avoir la dernière voiture, le dernier iPhone ? Ou est-ce qu'il y en a qui sont fiers justement de leur simplicité, de leur sobriété, qui veulent rester là-dedans ?
Non. Là, je bats en brèche toutes les idées sur le mythe du, l'ancien mythe du 19e siècle du bon sauvage, qui était complètement une hérésie. Le mythe du gars qui est un philosophe éleveur, un philosophe paysan montagnard, qui galère comme un malade et qui ne voudrait pas vivre comme nous. Non, ils veulent tous vivre comme nous. Ils ne peuvent pas, mais dans l'idée, si tu parles à des enfants là-bas, ils ont qu'un rêve, c'est de vivre comme un occidental, d'avoir un smartphone, d'avoir une bagnole, d'avoir un travail en ville, etc. Je pense que c'est inhérent à l'homme, cette idée de vivre, d'avoir une vie plus facile que celle que les parents ont eue. Il n'y a que l'obligation de changement qui changera la donne. Je ne pense pas du tout que les hommes d'eux-mêmes effectuent un quelconque changement. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, hein, j'ai peut-être totalement tort, mais ma version du jeu, c'est celle-là.
Et la limite, tu la vois quand et où, à quel moment est-ce qu'on sera face à ce mur et qu'on n'aura plus le choix que de changer ?
Ben, la limite, elle va assez vite arriver. Dans les zones où je vais, c'est-à-dire par exemple quand je suis en bordure du Sahara, dans le sud marocain, ce que j'ai vu auparavant en Mongolie avec le désert de Gobi qui avance, il augmente le Gobi, c'est les chercheurs de l'UNESCO qui le disent. Le Gobi augmente sa superficie de 10% de sa superficie initiale chaque année. 10% de sa superficie initiale chaque année. Donc ça va vite, ça va vite. Il y a le problème de l'Arctique qui est en train de fondre. Ça va aller très vite. Je pense que dans les 50 ans à venir, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les chercheurs, mais quand on va sur le terrain, on s'en rend compte. Là, on touche de près avec les populations qui vous le disent. Dans les 50 ans, ça va être un bouleversement et avec des changements de population. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des réfugiés qui arrivent, des réfugiés économiques, en dehors des problèmes politiques. Mais souvent, les politiques sont induites par des problèmes économiques. Hein. Mais on va avoir des masses de réfugiés économiques. L'Europe et l'Amérique ne s'imaginent pas la quantité de gens qui vont arriver dans les zones tempérées parce que les zones pré-désertes deviennent complètement invivables. Je pense qu'après, on n'aura pas le choix. Il va falloir s'adapter à ça. Et je pense que la capacité d'adaptation de l'homme, elle est à peu près infinie. Il y aura de la casse. Hein. Il y aura de la casse. Il y aura ceux qui auront les moyens de s'adapter, puis ceux qui n'auront pas les moyens de s'adapter. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter, à l'heure actuelle, ils n'ont qu'une seule échappatoire, c'est partir vers des zones plus favorables. Et je pense que ça va concerner des millions et des millions de gens.
Et pour terminer, je vais revenir à ton parcours de reporter, photographe, écrivain. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes comme moi de ma génération qui sont ici sur ce festival et qui ont envie de suivre un petit peu ce chemin-là, qui eux aussi ont envie de voyager avec un appareil photo et de témoigner de ce qu'ils voient et d'en vivre ?
Alors je pense que c'est toujours possible. C'est une question qui m'est souvent posée. Comment on devient reporter ? Comment on devient réalisateur, etc., auteur ? Bah, c'est très simple. Il faut arrêter tout de suite, mais tout de suite, l'idée du voyage, je vais un petit peu partout 15 jours et puis je me promène. Alors ça mène à rien, mais absolument à rien. On peut faire ça une fois, on peut s'amuser une fois comme ça, faire le baba cool et puis rigoler. Mais après, il faut s'accrocher à un sujet ou à un lieu, quel qu'il soit. Ça peut être votre village, ça peut être le village d'à côté, et puis travailler dessus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Suivre la vie d'une petite communauté en profondeur. Suivre un lieu en profondeur au fil des saisons. Un paysage qui change, des travaux, des champs qui changent, des travaux, voilà, etc. Suivre une usine pendant toute une année, suivre, voilà. Faire un travail de fond. Si vous faites ça et que vous devenez bon dans l'endroit que vous avez étudié, alors après, les portes du reportage sont grandes ouvertes. Le reportage, c'est un des seuls endroits, vous n'aurez jamais ni un éditeur, ni un rédacteur de revue, ni n'importe qui, ni une chaîne de télé qui vous demandera vos diplômes. Elles vous demanderont c'est quoi votre sujet, montrez-nous ce que vous avez fait. Et si votre travail est bon, ça passera.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.